La musique.
Carabanana maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour
vive mon grand néon, vive le soleil. Vive
les oreilles
libres.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières, outre forme de création curieuse.
Tout ça a commencé fort modestement.
Pour montrer que les choses sont
dans l'information.
Tout au long de l'époque chrétienne.
Un tour de passe-passe.
Pathétique.
Il y a la certitude sensible.
De la déraison des hommes et des choses.
C'est pas loin du cauchemar.
Dialectique.
Dans une information constante.
Un petit peu fantaisiste et pas tellement sérieuse.
Littéralement.
La particularité, la singularité.
Atteint de maladie vénérienne.
Pourquoi le faire?
Un incident technique en somme.
Ici et maintenant, c'est l'universel vide. Puisque c'est de tout moment de l'espace, de tout lieu, de tout lieu de l'espace que je dis ici, et c'est de tout moment du temps que je peux dire maintenant.
Les textes sont assez clairs.
Pour le magnétophone et pour le potentiomètre.
Dans la cuisine, dans les water closets.
D'une sorte de grand délire.
Comme artifice poétique.
De la folie du monde, de la déraison des hommes et des choses.
Que
m'en fous.
Que m'en fous-je ? La série du mois d'août dans l'émission Les Oreilles Libres. Nous avons lancé un appel à participation auprès de nos amis, musiciens, performeurs, pour leur proposer le thème suivant. À la manière des Que sais-je, il s'agit d'écrire et de mettre en onde une série d'interventions de 40 minutes, très spécialisées et didactiques, mais sur un sujet dont vous ne connaissez absolument rien, ou traité de façon farfelue. L'intérêt consiste à inventer une réalité et de manière la plus sérieuse possible raconter absolument n'importe quoi. Cette semaine, nous avons l'immense privilège d'accueillir deux prestigieux contributeurs, des professionnels, l'une de la musique, l'autre de la performance, et qui nous ont fait l'amitié de répondre positivement et avec engagement à notre sollicitation. Marie-Lise Fraîcheville joue de la batterie et chante au sein du duo Vialka. Elle développe d'autres projets autour du spectacle vivant notamment. Nous l'avons reçue à deux reprises dans Les Oreilles Libres. Il y a 2 ans, elle nous avait déjà fait l'amitié de participer avec brio à notre série estivale Les Monologues. Elle est l'auteur, la compositrice, mixeuse du Que m'en fous-je qui va suivre. Mathieu Baudin en est le co-auteur et narrateur. On écoute dans la collection Que m'en fous-je, le volume numéro 5, Cannes 47-35 ou les secrets de la canne à pêche télescopique bloquée en position ouverte de Marie-Lise Fraîcheville.
Pour votre récréation, vous pêchez, de préférence en bord de mer. À pied et à la ligne, durant l'équinoxe de printemps. Or, il arrive qu'en cette période de grande marée fertile, la mouche de votre canne à pêche de supermarché soit happée par un spécimen de poisson extraordinaire, digne de la pêche de compétition. Une grande alose fine, un brochet à large gueule, surmonté d'une lamproie suceuse excitée. Un globicéphale noir, un gros maigre. L'auteur de ce texte en fit l'expérience depuis les rivages de Soulac-sur-Mer, au bord de l'estuaire de la Gironde, un après-midi caniculaire de mai 2018. Alors qu'il pratiquait la pêche au vif itinérant, il sentit son leurre se débattre avec une vigueur et une énergie incomparable, une sorte de paroxysme qu'il est malheureusement impossible d'imiter et qui ne dure qu'une grosse poignée de secondes. Le moment de capture passé, suivant la courbure bombée de sa canne à cou, il aperçut au bout de la ligne bandée un magnifique kalouga moustachu et argenté qu'il savait interdit à la pêche depuis 1982, animal contre lequel il ne ferait tout de façon pas le poids. Avant même qu'il n'eût pu s'interroger sur l'origine exacte de cet esturgeon sibérien, certainement échappé d'une pisciculture jouxtant le bassin de refroidissement de la centrale nucléaire du Blayais, notre proie improbable s'était fait la belle, arrachant hameçon, ligne, moulinet, sacoche et le cinquième élément de la canne à pêche télescopique, ce bouffin est souple. Le kalouga gavé et cossu entraîna tout ce bazar dans les tréfonds glacés de l'océan Atlantique et disparut à jamais. La canne, quant à elle, fut violemment canardée dans les cieux et se glorifia d'un triple salto vrillé au soleil avant de rebondir à mes pieds, jouant une note de marimba antédiluvien, un sol rehaussé ou un la bémolisé variant autour de 206 Hz. Le début d'un presque rien, là, peut-être. Un poc sans écho s'évanouissant dans sa fulgurante épiphanie. Que m'en fous-je ? C'est dans une drôle de béatitude que je me penche pour ramasser l'objet résiduel de cette rencontre. Un tuyau noir et bleu en fibre de verre, raidi, creux, évasé, blessé et long de 385 cm.
Intérieur plastique, extérieur plastique.
De Marc Hauten, pas de numéro de série. Pas de déco rococo. Le mieux serait de souffler dedans. Il sonne comme un vrai instrument. Ses harmoniques sont naturelles, comme celles du PVC, du bois ou du métal. Mais si tu t'en sers pour fourrer ta queue ou si tu te fourres avec, tu te fourvoies, autant le dire, ça n'est pas hygiénique. Tu risques de te rayer le casque ou d'attraper des champignons, marins peut-être, mais qui grattent quand même.
Contrefaçon chimique. Cavité chimérique, la canne à pêche télescopique, loquée en position ouverte, est un instrument de musique, amplifiable par un cône de ch'tier. C'est vraiment vos volets l'emboîter, choisissez un tube raccord d'évacuation des sons d'origine merdique.
La peau des joues comme une peau de tambour. La langue qui se cherche une place dans la bouche. Les oreilles attentives à ce qui sort à l'autre bout du chantier, à ce qui vient de chez soi, quelque part. Le diaphragme tremblant, le ventre timide,
La bouche en cul de poule. La canne expire plus qu'elle n'inspire. Et ça, ça l'émeut. Une note énervée dont elle se fout du nom. Une fréquence médiante qui ne la séduit pas. Une série d'harmoniques que tout le monde connaît par cœur. De quoi jouer.
Oh, when the saints, oh, when the saints, oh, when the saints go marching.
Sans boucher un seul trou, il lui faut du temps pour tomber, pour se calmer et trouver la grave vibration. Je repars vers le camping en longeant la voie ferrée désaffectée, songeant au moyen de fourrer ce reliquat de canne télescopique, bloqué désormais en position ouverte, dans la poubelle du recyclage. Fait très chaud. Trop chaud. J'ai oublié mon bob blanc et bleu sur un banc du terrain de pétanque hier. Ah, Jenny. Mon t-shirt suinte et colle. Je sens la pierre, je reluis. Une goutte de sueur vient m'irriter un œil alors que je gobe mes bulles de salive. Je mousse sous la moustache. Mes doigts meurtris se relaient dans une danse de l'esquive pour se coltiner les quelques grammes de la canne. Et si je m'en débarrassais tout de suite ? La plaçant sur ma tempe, le bras armé derrière la tête, je fronce les sourcils et entame une course expéditive. La canne est catapultée aussi loin que possible. Mais quelqu'un nous a vus. Un glissando de jubilation suit la trajectoire aérodynamique du projectile jusqu'à son impact, au sol ou en l'air, plus proche de 1689 Hz cette fois, je vous le jure, je ne recommencerai plus. J'embrasse du regard les champs vagues alentour de mes lunettes polarisées. Personne. J'hallucine. Serait-ce un retour des acouphènes ? Je fonce, sans forcer, je m'empresse d'aller repêcher incognito cette chose qui me mène déjà à la baguette. Après tout, elle pourrait s'avérer utile. Officier en piquet de tente, en support de fil à sèche-linge ou en accroche de longe pour chèvre ou enfant fugueur, pourquoi pas. Soit. Dès mon arrivée au camping, je la plante fermement sur au moins un quart de sa hauteur et me réfugie dans ma tente, menacée par l'orage. Vous devinez la suite, non ? Élancée pieusement à la verticale vers l'infini sombre et tonitruant, la canne étêtée se prend de plein fouet la tempête et la foudre du feu de Zeus. M'électrocutant avec elle. Je tombe, quoique déjà allongé dans mon sac de couchage, sur deux tapis de yoga empilés au-dessus d'un assemblage en caillis bottis à 2,70€ le mètre carré. Je tombe dans un coma court et profond qu'on aurait pu appeler sommeil bien mérité et me réveille doucement. Le lendemain, au gazouillis des pipilles et des alouettes, je lalalule en regardant mes doigts danser, s'entremêler, puis roule une clope. Ah, quel bonheur! L'un des oiseaux chanteurs, d'ailleurs, m'honore d'une chire sur l'épaule gauche au sortir de la toile. Maman dirait que c'est mon jour de chance. C'est un merle. Il est là-haut, suivez la fumée, perché au sommet du tube bleu et noir. Ce tube qui, plus pimpant que jamais, brandit son orgueil en singeant les arbres. L'empoigne la canne à pêche et capte avec stupéfaction une vibration à 101,6 Hz. Elle est descendue de 3 octaves cette nuit.
Il est 11h02 sur France Bleu Gironde. Tout de suite une dépêche de la rédaction. C'est avec un effroi incommensurable que ce matin à l'aube a été découvert un pied féminin. Pied rapporté par un chien qui promenait son maître dans la zone de mouillage de Soulac-sur-Mer. Les caractéristiques précises du pied n'ont pas été transmises aux journalistes. Si ce n'est qu'un tatouage de cicatrice bleue, c'est la cheville a priori mâchouillée par le chien. Police judiciaire et gendarmerie se sont alliés pour passer les rivages de la zone désaffectée au peigne fin. Un numéro spécial.
Je relâche l'antenne et regarde mes tongs taïwanaises. Du vernis verdâtre brille irrégulièrement sur les ongles de mes deux pieds poilus défrisant le gazon. Il semble que cette année, je rentrerai bredouille à Paris, si ce n'est muni de cette cape à chaîne bloquée en position ouverte dont la fréquence n'a de cesse de fluctuer. Dans un mouvement nonchalant et automatique, je retire mon portable de la poche droite de mon pantalon-short. Il ne s'allume plus. Grillé.
C'est le moment de plier bagage.
Ah, Jenny, me faut un café. Je découpe au cutter des lamelles de caoutchouc dans des vieux pneus de vélo qui me servaient de ceinture afin d'attacher la canne sur la galerie de ma Passat. À l'instant où je la saisis à nouveau, une voix indescriptible m'abasourdit. Cette fois-ci, pas de doute. C'est bien la canne qui me parle.
Limite le moins possible les hommes dans leur maladie énigmatique de faire des deux. On va transporter chez toi et la limousine.
C'est ça, ton mode d'emploi, c'est une limo.
Pour profiter de votre guide et de l'utilisateur éclectique de la canne à pêche télescopique bloquée en position ouverte. Ne lâchez pas.
Me faut un café.
Chapitre 1. Vous venez de contracter une canne à pêche télescopique hautaine bloquée en position ouverte. Avant toute utilisation à risque, veuillez vérifier la sécurité du blocage qui assure la parfaite vibration télépathique de la canne. Pour activer le sommaire, dites sommaire.
Sommaire.
Je n'ai pas compris votre réponse. Pour toutes les fonctions des guides physiques et spirituels, dites guide. Pour les fonctions à bien santé et bien-être, dites santé.
Guide.
Pour une utilisation intérieure, dites intérieur. Pour les services à la personne, dites service. Pour la fonction sportive, dites sport.
Hein?
Pour une utilisation dans le domaine de l'art, dites art. Pour toutes les autres fonctions indispensables, dites truc.
Ben ces trucs, alors.
Vous avez choisi la fonction sport.
En lancée de javelot ou saut à la perche, en barre fixe, en club de golf, la canne à pêche télescopique bloquée en position ouverte vous permettra de surpasser tous vos objectifs athlétiques. Grâce à sa robustesse, sa légèreté, son élasticité et une prise en main incomparable dans de boxe ou d'haltérophilie, l'énergie électrostatique disruptive de la canne se décharge dans votre bras et vous confère une force herculéenne tout en congelant vos adversaires dans un plasma de sphère. Pour obtenir un agrément par une confédération sportive internationale, veuillez vous rendre sans prévenir au meeting officiel, vous servir allègrement au buffet des VIP, arborant votre canne, un large sourire et des vêtements, survêtements et sous-vêtements. Vous présenter nu ne satisfait pas à la situation. Ainsi, tout le respect dû au rang social de votre nouvelle catégorie vous sera octroyé avec convoitise. Poutine lui-même vous suppliera de poser en accolade avec la canne à pêche pour un selfie, ce que vous lui accorderez évidemment pour les catégories de majorel, de voltige, de dressage en équitation et de pole dance, veuillez vous référer à l'utilisation de la canne dans le domaine de l'art.
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 L'art. Non mais aussi parfois l'art, du moderne et trop bordel. Cette couche de graisse est insécurée sous la peau du porc. Que l'on trouve par exemple, pour écliser mes mousquetaires, sous les couteaux affûtés de maïs et micheline. Depuis la crise des dorbiards, après mes ressentis à part, qu'on parle de saturation des papilles avec un super. Tu olais à l'inode, tu pas sur ses mots.
Intolérable. Tant pis, je me cache à peine et saute sur l'habitacle rouillé de la passade qui criaille sous le choc caustique. Et j'arnache cette chiante chanteuse, la canne en sol dièse ou la bémol à la galerie. Dès que mon fouge, mon portable est mort, sert au moins de GPS analogique. Je t'ai vu, canotaine bloquée en position ouverte, 385 cm de téléguidage sur les épaules des touristes marathoniens grimpant la canebière et sous les bras des bécanes cantaliennes. Coupe les virages, ramène-moi à la maison.
Pour démarrer votre véhicule, veuillez vous installer sur le siège conducteur. Ajustez les rétroviseurs, attachez votre ceinture, poussez la pédale d'embrayage si votre boîte de vitesse n'est pas au point mort. Introduire la clé dans le Neumann et la tourner.
Putain, les clés.
Bordure sans fil,
compatible avec tous vos outils de bricolage et de jardinage. Veillez en...
Vous avez choisi suceur de frites. Cette fonction n'est disponible qu'au nord du 50e parallèle. Désolé, cela ne remet pas en cause les bienfaits de la sucothérapie ni la fonction globale bien-être de la canne.
Ok, ok, pas de panique.
Ok, pas de panique. Le plaisir de la pêche, c'est de se trouver au bon endroit, au bon moment. Me faut un café, une clope, un truc sympa pour rouler entre mes doigts, une boîte de vitesse, une canne à pêche à peau de velours. Ouais, pour pêcher doux, un jour pêcher.
Essayez encore. Vous avez laissé vos clés de voiture déverrouillées auprès du cadavre de la jeune estropiée.
Quoi ?
Oui, la pétanque vous monte au cerveau. Vous devriez passer plus de temps à des jeux moins dangereux comme les mots croisés ou l'aquaponie.
Ouh ! Quoi ? #4 arrobas... Fin de la parenthèse. C'est une blague.
Oui, rassurez-vous.
Aucun que votre charmant auteur dénuda les fils bleus et rouges de derrière le démarrage. Et de leur croisement jaillit l'étincelle du démarrage. La canne à pêche sanglée sur l'habitacle de la passate, pointant son long nez au vent, il s'engagea promptement sur la route, ou plutôt sur le chemin caillouteux qui menait aux abords du camping. C'est là qu'il s'arrêta, au bar Restauration Rapide L'Endive Braisée, après environ 200 mètres parcourus. Il commanda un double espresso qu'il sirota du bout de la langue avant de retourner vers son véhicule dont le moteur ronronnait toujours. Il se dit qu'avec cette canne à pêche en étendard, il avait l'air d'un chevalier prêt à s'affronter en joute et que c'était le meilleur moyen de passer inaperçu dans les rues de Soulac-sur-Mer où la police s'était déjà démultipliée à l'allure des poux et qu'elle ne faisait pas que draguer le fond de l'océan.
Durant les 527 kilomètres qui filaient vers Paris, la canne à pêche et lui entretinrent des discussions allant du principe de multifonctionnalité des nouvelles technologies à la chute de la valeur de l'amour romantique dans le contexte néolibéral. Il fut notamment cas de la procréation médicale assistée dont l'IN était le fruit platonique.
Hashtag 4, arrobase.
Ça le rendait soupaulé.
Femme la bandeuse.
Que c'est ainsi que l'auteur devenu héros se nomme malgré lui, un corps poilu fagoté de deux bourses, d'un pénis en son sein et d'un trou dans l'estomac. Lynn, donc, n'avait pas encore 40 ans, mais redoutait déjà le cancer de l'œsophage ou de l'intestin, ou bien un cisaillement de l'épine dorsale. En cas d'accident, une greffe de canne peut être envisagée sous couvert de votre tolérance aux médicaments ralentisseurs de l'activité cardiovasculaire. Pour vous protéger d'une épidémie de rhinite ou de myxomatose, ne touchez pas votre famille, vos collègues ou vos amis. Interposez la canne à pêche entre les poignées de main ou les parties du corps. Introduisez-la dans l'oreille de votre dulciné pour lui souffler des mots d'écureuil roux.
Tu aimes les chips? Paprika? Crème et oignon? Sel et vinaigre?
Frictionnée avec du lait de jument caillé, la canne cure-dent peut piquer les tranches de rosette à l'apéro, puis effectivement ôter les filaments alimentaires indésirables immiscés dans vos interstices ou les godontiques. Entre le pouce et l'index, un filament peut s'étirer. Se dessinent les prémices d'un plan de RER J, j'arrive un peu trop tôt, déjeté des quais, des pontons, des littéraux portuaires reliés aux autres moyens de transport en grève. Il est temps de replonger. De faire la vaisselle.
La canne est bloquée en position ouverte, c'est qu'on l'a forcée. Et qu'elle ne veut plus redevenir cet objet qu'on grandit en feintant de la jeter, qu'on rétrécit quand on est fatigué de l'avoir travaillé, se tordre et se courber sous le poids des godillots, des vélibs, des véloves, des ratasses, des macabées qu'elle accroche indifféremment et conduit par son fil d'Ariane jusqu'à la rive. Soit elle pêche, soit elle chante et on l'accepte dans toute son envergure, soit allez-vous faire foutre, essayez de me faire entrer en moi-même comme un yogi et je vous jure que je pète, que je craque, je casse et vous ne ferez plus jamais rien de moi que alimenter un peu plus l'océan de plastique qui, soit dit en passant, finira par vous faire tous crever, bande de bâtards, de bouffeurs, de balais à chiottes. Un peu de calme. La canne à pêche d'extrême centre a peut-être le droit de s'exprimer un peu aussi. Elle, qui ne monte pas au créneau, qui accepte et revendique son droit à être utilisée de mille manières et qui n'a pas de problème avec ça.
Elle considère que née canne à pêche, elle est très fière de pouvoir prétendre à une vie de porte-drapeau, d'antenne à banqueroute, ou même de présidente de la République. Bah oui. Puisqu'elle unit le monde marin et le monde terrestre en traversant chaque fois les cieux. Elle offre aux bêtes aquatiques la possibilité de rencontrer la technologie créée par les animaux terrestres et la possibilité aux animaux terrestres de se sustenter en iode, oméga 3, acides gras polyinsaturés, vitamines, protéines et minéraux nécessaires à leur équilibre alimentaire et au bon fonctionnement de leur thyroïde, tant de fois dupée par des perturbateurs endocriniens imitateurs de poissons. Elle est la seule à avoir constaté que les 10 poissons et même les mammifères marins, quelques batraciens, sont tant attirés par le monde terrestre qu'ils sont prêts à risquer leur vie pour vivre comme des chats ou des chiens. Elle propose de réguler. La Terre ne peut pas accueillir toute la mer sans risque d'être submergée. Et elle est la seule à oser dire aussi que les humains, mais pas que, les éléphants et quasiment toute la savane adorent se vautrer dans les flaques, les lacs, les rivières et océans et qu'il est naturel. On leur préserve des espaces.
Votez pour la canne à pêche au thym, car elle est juste et bonne. La canne qui sait ce qui est bon pour nous, habitants du ciel, de la mer et de la terre. Maintenant et pour nous, ça écoule, ça écoule.
Kilomètres de route, c'est long. Mais je vous rassure, je vais pas tout vous raconter.
La canne à pêche bloquée en position ouverte, montée en sarbacane par la fenêtre ouverte. Je tire des balles de ping-pong sur les queues de poisson des fous du volant et tue 2 pigeons d'un coup. C'est Jenny qui va être contente. Elle adore le pigeon embroché à la canne. Elle cache à peine son enthousiasme quand je rentre à l'appart, affublé de ma longue hautaine qui refuse d'entrer dans la cave. Je lui propose alors de l'essayer sur le champ, à quoi elle me répond que hey, t'es vraiment un gros dégueu, t'as fait quoi pendant tes vacances? T'aurais pu laisser cette canne dans la cage d'escalier. Et d'ailleurs, elle est bourrée et c'est pas la meilleure idée de boire et conduire la canne. C'est même très con. Et puis, Jenny avait été repérée agressive en maternelle. On ne sait jamais quoi en penser.
Elle pose sa pêche sur le canapé. Toujours est-il que ce que je veux dire, c'est que c'est bien ça dont il s'agit depuis le début. Et j'ai beau essayer de la convaincre que la canne à pêche pourra promener le chien, ramasser les crottes, sortir les poubelles, espionner les voisines, aspirer les chapeaux des passants, faire des croche-pieds aux racailles, embrasser les araignées, gratter le réverbère, soutenir les tâches du dessus, occuper grand-mère, garder les enfants en les tournicotant et vous tenir à juste distance des postillons du concierge. Quand est-ce que je retrouve Jenny et je la baise pour de vrai?
Quand est-ce que je lui soutire le pull?
Ou bien je ne la retrouve pas parce que c'est elle qui a été assassinée?
C'est peut-être moi qui a balancé son corps mutilé dans l'océan en me faisant croire que c'était un brillant poisson de l'aube. Vous aimeriez bien le savoir, hein? Jenny.
Moi aussi.
C'est drôle, ces doigts qui tapotent sur le clavier sans s'arrêter. Allez, faudrait rester concentré parce que cette histoire est pas finie. Les témoins et les juges n'ont pas encore entendu la moitié des super pouvoirs de la canne à pêche bloquée en position ouverte. Celle qui sonne en sol ou en la. Que m'en fous-je ?
Qui se sert de qui ? Admettons-le, derrière ce texte se cache un homme, et non une canne à pêche. Et si la canne est vraiment le sujet de toute cette histoire, alors cet homme en est le dieu créateur. Personnellement, je crois que cet homme, mâle ou femelle, à qui on peut sûrement reconnaître certaines qualités, humaines sans doute, et elles sont de fait assez éloignées de celles que l'on confère à Dieu. Cet homme que j'ai déjà personnellement croisé au cours d'un brossage de dents dans une salle de bain équipée d'un miroir. Physiquement, assez différent de l'image que l'on prête à Dieu, au moins des photos disponibles sur Google Images. Je ne crois pas qu'il soit Dieu. Est-ce à dire que je ne crois pas non plus que la canne à pêche télescopique soit le vrai sujet de cette histoire ? Les croyances sont-elles le vrai sujet ? La canne de Jeanne s'en contrefou, car à part cancaner et de temps en temps pondre un œuf, ce qui lui plaît, ce qui fait sa fierté, c'est d'être le sujet d'une chanson d'un poète émérite. La fierté et le plaisir sont-ils le sujet ? Le sujet, pourrait-on penser au mois de mai quand nous voyons défiler sur les tapis rouges de Cannes des femmes très souriantes, aux jambes très longues et très fines, aux côtés de vieux monsieur très souriants, aux jambes très courtes et très fines, très fiers, très heureux, semble-t-il, de participer à une compétition de films. La compétition est-elle le sujet ? On peut s'en inquiéter quand on en est à imaginer comment recycler la canne à pêche télescopique bloquée en position fermée, en chef d'état, sujet littéraire ou déchet non organique au risque de perdre le fil d'une histoire sans queue ni tête.
km se déroulent sans filet. La canne propose à Lynn de lui porter ses pigeons en baluchon hors de la passate, car ça commence à sérieusement puer la mort là-dedans, la peur aussi. Lynn s'étonne quelque peu de voir venir vers lui une, puis plusieurs hautes montagnes qu'il avait déjà vues quand il avait accompagné Tata Béné dans un pèlerinage lourd. Lui aussi avait caressé le fond de la grotte en espérant le miracle de la vie éternelle comme un lombric humide. Il remarqua alors qu'il avait voyagé quasi constamment vers le sud. Pour preuve, tous les panneaux étaient encore en contre-jour. Il faisait tant confiance à la canne à pêche qu'il n'avait pas pris la peine de lire. Le sud, ce n'était pas Paris. Cette idée l'encouragea à s'arrêter sur une scène non dédiée au bord de la route, une aire gravillonnée limitée par un garde-corps rudimentaire. En contrebas, une rivière bien vivace échue de la fonte du glacier Mont Perdu creusait un sillon unidirectionnel. L'estomac de Lynn réclamait pitance.
Son estomac réclamait du pigeon rôti.
Il entreprit de longer les berges du cours d'eau avec les 385 cm de canne et son baluchon sur l'épaule. Il suivait le bon sens, celui du courant. Ses contes saumons s'évertuent à l'effort du contresens et finissent par payer de leur vie le retour aux origines.
Au bout d'un temps incertain, je retrouve une plage assez vaste pour nous accueillir. Je structure un foyer de brindilles et bois séchés au-dessus duquel j'arc-boute la canne à pêche. Elle n'a pas perdu de sa souplesse.
Ah, Jenny, je suis un peu déçu cependant qu'elle boude. J'aurais peut-être pas dû l'injurier. La ferme, grande perche, c'est pas dans les Pyrénées qu'on yodel et qu'on joue du cor. C'est dans les alpagages. Oh, le monde du silence. L'être solitaire. Péché. Une lumière rousse du soir m'enrobe déjà lorsque j'ouvre le sac poubelle en plastique qui contient les deux pigeons. Il y a quelque chose qui cloche. Il n'y a pas de pigeons là-dedans. Je me gratte l'oreille machinalement. Une odeur m'assaille. Un torrent d'adrénaline frappe mon cœur. S'écrase mur de métal. Je veux hurler, mais il n'y a qu'un trou vide ou plein de silence solide. Comme un mur de métal dense, noir, coagulation pure. Un pied qui danse et qui chante là, là, là. Un pied qui danse tout seul. Le pied pue. Non, le pied. Quel pied? Le pied qui danse. Ce pied. Le pied. Le pied. Ah, le pied. Ah, le pied de Jenny.
Dans ma mémoire, son gros orteil n'était jamais aussi bien manucuré que les autres. Qu'est-ce qu'il fout dans ce sac, le pied de Jenny? Je vomis à nouveau. Il est bien utile, ce sac poubelle. On sous-estime trop la multifonctionnalité des sacs poubelles. Je n'ai rien avalé aujourd'hui. Vomir me fait mal. Je ne vais pas me laisser abattre par ce coup du sort. Je pose mon sac et m'assois en tailleur, position 22 du yoga méditatif. Il fait chaud.
Jenny.
Beaucoup trop chaud pour la saison. Sommes-nous aujourd'hui? La canne à pêche est toujours plantée là. Les étoiles pointent une à une leurs scintillements indécents. Elles grossissent et filent comme des torches. Je distingue un chien qui aboie. Sa gueule a environ 10 cm de la mienne. Les seigneurs en képi chassent les points de leurs armes. Sur Wam. C'est qui le pigeon cette nuit? Je ferme les yeux.
Lynn aurait voulu se réincarner en beluga blanc du Pacifique, mais il rouvrait les yeux sur des prêtres en robe sombre dans une chapelle décorée de marqueterie fine. Combien étaient-ils là, à le juger, en toute incompréhension? Il ne comptait plus. Il regardait ses doigts avec stupéfaction. À partir de cet instant, il ne compterait plus. Ça ne servait à rien. Il n'y avait plus que la hautaine qui l'écoutait. Son avocat avait plaidé la culpabilité avec circonstances atténuantes de canne à pêche bloquée en position ouverte. Lynn implorait que, quoi qu'il arrive, il fût incarcéré avec la canne.
Abandonné. À la première venue qui avait une grande voiture avec une galerie et qui m'a dit:
j'en ferai bon usage.
Je l'ai cédé gratuitement. Et en la voyant partir, je savais qu'elle me manquerait. Et ça, c'est pas l'objet qui me manque. Il y a des milliers de cannes à pêche du même modèle dans les supermarchés. Quelqu'un va souffler dans ma canne. Ce quelqu'un va se l'approprier et ça sera sa canne. Et la canne chantera pour elle et je n'existerai plus. Et le sujet, c'est de laisser une trace. Parce qu'à partir d'après, je n'existe plus.
Et que ça, 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 et que ça, ça, ça angoisse Dieu de ne plus exister. Ça, ça angoisse Dieu de ne plus exister, de ne pas se sentir plus utile qu'une conne de canne à pêche télescopique bloquée en position ouverte.
Furent admis dans une cellule grise du 47e étage d'un centre pénitencier que la décence nous interdit de nommer. Ils se réjouirent d'y repérer une fenêtre, un unique œil de bœuf sans vitre. Le vent qui s'y engouffrait faisait une note indécise, comme un sol dièse ou un la bémol. Que m'en fous-je?
C'était parfait.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne. Partout ailleurs, radio-libertaire.net, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, qui diffuse sa série de l'été. Que m'en fous-je ? Dans laquelle il s'agit de raconter n'importe quoi. Constantin Leu est danseur de formation. Il se tourne vers la performance et participe en tant que membre actif et agissant à des formations musicales. Il évolue au sein du duo Congo Punk en compagnie de Cyril Atef et au sein du groupe Musique Post-Bourgeoise. Mamoto est son projet de performance solo. On écoute, dans la collection Que m'en fous-je, le volume numéro 6. Mantes urbaines et cœur des tubules de Constantin Leu, 39 minutes 45.
Oui, bon, alors donc il est évident que dans l'état actuel des recherches, on subodore qu'il y aurait une parenté entre les mantes urbaines essentiellement et certaines émissions d'ondes émises par le cerveau. Découverte récemment, en même temps que les ondes électro, l'écho des ondes électromagnétiques dans l'atmosphère, ce qui nous permettrait peut-être d'expliquer certains phénomènes inexpliqués jusqu'alors.
Thank you.
est souvent absente, même si les insectes ressentent les vibrations grâce à leurs poils sensoriels. En revanche, les insectes chanteurs possèdent des systèmes complexes qui leur permettent d'entendre les chants de leurs espèces. Les oreilles, appelées tubules tympaniques, sont alors situées à différents endroits du corps. Par exemple, sur les pattes chez les sauterelles et les grillons, sur le thorax chez certaines mouches, ou encore sur l'abdomen chez les mantes ou les criquets. Les vibrations sont parfois perçues avec les antennes, notamment chez moustiques qui entendent la femelle grâce à leurs antennes. Et les mantes et les blattes, par exemple, fabriquent des zootechs très efficaces, au point que les œufs de menthe ont éclos après immersion dans l'oothèque pendant quelques minutes dans l'eau bouillante. L'oothèque des blattes ressemble à une espèce de haricot. Les criquets sécrètent un mucus qui, en séchant, forme également une oothèque. Bon, il existe de nombreuses façons d'émettre des sons, et les secrets de ces émissions ne sont pas encore tous découverts. Pour chanter, les insectes possèdent des organes parfois complexes dont voici une description simplifiée. Alors, parmi les méthodes les plus répandues, il y a le frottement entre eux de deux outils miniatures qu'on appellera râpe et grattoir. Selon les espèces, ils sont situés à différents endroits du corps, hein, comme on a dit. Alors, chez les mantes, l'une des ailes antérieures ou élytres est dotée de la râpe et l'autre du grattoir. Le frottement de l'une contre l'autre produit des stridulations, des chants plus ou moins forts en fonction de l'angle d'ouverture des élytres, qui font office d'amplificateurs. Les mantes ont ces outils sur les pattes postérieures et sur les élytres, alors que la râpe de certains coléoptères se trouve sur le thorax ou sur l'abdomen chez certaines fourmis. Bon, eh bien, chez certaines mantes aussi, il y a d'autres phénomènes qui peuvent se produire, et c'est par la déformation d'une membrane située sur l'abdomen, et également, comme les insectes ne respirent pas par la bouche, il y en a qui jouent de la trompette. Bon, alors il y a aussi un exemple presque unique, on va dire, et c'est la menthe urbaine, appelée sphinxine, qui peut expulser de l'air à travers sa courte trompe et émettre un soufflement modulé grâce à un clapet. Le fait que la tubule constitue la base de l'organisation vitale ne fut clairement compris que vers 1839, quand les biologistes allemands Schleiden et Schwann fondèrent la théorie tubulaire. Mais cette théorie ne surgit pas d'emblée, elle fut l'aboutissement d'une longue série de travaux et d'intuitions préparatoires. Entre ces lointains précurseurs et les fondateurs de la théorie cellulaire, il y aurait trop de noms à citer. Peut-être faut-il accorder une mention particulière aux intuitions d'Hawken, qui voit dans chaque organisme une synthèse d'infusoires et de briseaux mirbelles qui fait de la plante un être collectif. Mais il semble que ce soit encore Dutrochet qui est le plus approché de la vérité quand il écrit « Il n'est donc point douteux que les organes des animaux ne soient formés par des tubules agglomérés et que ces utricules n'aient sur leurs parois des tubules plus petites, comme cela a lieu pour les cellules ou utricules des végétaux. »
Thank you.
En 1910, à Londres, le jeune chercheur Henry Dale se penche sur les effets d'une substance nouvellement synthétisée par ses collègues des laboratoires Wellcome et lui trouve des propriétés semblables à l'adrénaline. Pendant 30 ans, celle-ci deviendra la dopamine et en 52 sera regardée comme un modeste intermédiaire dans la synthèse de l'adrénaline et de la noradrénaline. Substance qui nous permettrait aujourd'hui d'induire les fluides réflexifs qui pourraient nous faire peut-être mieux ressentir la résonance du grand hum. Redis-moi qu'il faut tendre la vie. Redis-moi le point qui tend l'infini. La présence sans jamais le temps. le cœur de toute chose. Redis l'arbre et les parties de nous-mêmes rassemblées vers l'immensité de l'espace infini, fini par nos sens, au-delà par les bras, les branches, les roues qui montent de la terre et percent le verre immense. Redis-moi croire, densité des paupières comme des paumes, mes mains massent ce que je regarde au loin. J'attrape l'horizon, je crois. Redis-moi et porte-moi en ton espérance. Tout près du parapet, une plume trace un point définitif, est certain. Là, en plein air, suspendu. Et comme vous venez de le souligner, cela prend justement tout son sens, le cœur des tubules, les tubules étant les résonateurs que nous avons à l'intérieur du cerveau, plus exactement situés dans le cervelet, nous permettrait de percevoir ces ondes, comment les qualifier encore maintenant, ces sortes de vibrations émises vraisemblablement par ces mantes urbaines. Oui. Entendre est une manière de toucher à distance, et l'intimité s'élargit au social lorsque plusieurs personnes se réunissent pour écouter ensemble. L'unique protection dont l'oreille dispose consiste en un mécanisme psychologique élaboré de filtrage des sons qui permet l'élimination de ceux qui sont indésirables et la concentration sur les autres. L'œil projette vers le dehors, l'oreille attire au-dedans, elle absorbe l'information. Wagner écrivait « L'œil s'adresse à l'homme extérieur, l'oreille à l'homme intérieur ». L'oreille est aussi un orifice érotique. Écouter des sons harmonieux, de la musique par exemple, c'est comme la langue de l'amant dans l'oreille. Cet intercalaire, même au creux des villes, entre les individus et ces mantes, ce sont des bruits de tonnerre et d'explosion. Tout autour, on peut même sentir le sol trembler. Les mortels, murs de lave de 2 à 3 mètres de hauteur, progressent détruisant tout sur leur passage. Ils sont presque silencieux. Pas tout à fait cependant, car si l'on prête l'oreille, de légers craquements dans la croûte, des petits bruits secs, comme du verre qui se brise, se font entendre un peu partout sur des kilomètres. Hormis cela, c'est le silence.
Second wife fell in the afternoon, slipped into hysteria and talked about the moon. Well, this was only temporary, so the doctor said. So I watched a football game and she went off to bed.
L'onomatopée reflète le paysage sonore. Aujourd'hui encore, notre langage constitue, dans son vocabulaire descriptif, à reproduire des sons de l'environnement. Il se peut même que les prolongements acoustiques les plus sophistiqués de l'homme, ses outils et ses signaux, reproduisent également, dans une certaine mesure, ces mêmes archétypes, les onomatopées. Par exemple, c'est intéressant de noter comment on onomatopéise les bruits et les sons des animaux dans les différentes langues. Le chien bow-wow en anglais, arf-arf en américain, waf-waf en français, ho-ho en argentin, go-go en vénézuélien, hong-hong en japonais, kwe-kwe en lituanien. C'est sidérant, quoi. Le mouton, encore plus sidérant, ba-ba en anglais, me-me en grec, en japonais, ma-ma en argentin, et évidemment, en français.
Ah.
Oui, il est évident que tout cela pourrait former une sorte de musique, de langage, j'allais dire interstellaire, mais en tout cas aérienne, qui se développerait dans l'espace, comme par exemple la Symphonie de l'Univers de Charles Ives, et qui est un de ses rêves utopiques. C'est une œuvre conçue pour des centaines, des milliers d'exécutants éparpillés dans les vallées, sur des coteaux, au sommet des montagnes. Une œuvre gigantesque, si totale, qu'aucun individu seul n'a jamais pu en assumer la maîtrise ou le contrôle. Une œuvre où tous ceux qui le désiraient pourraient participer. Et ça va être le cas. Élancé, la pause, l'oubli, le miroir. Dans un sursaut et la montée des vertiges. Les rondins peuplés, engendrés par la mer, l'irrespirable cloaque et l'histoire des derniers. Je retrouve une fatigue qui ne m'a pas quitté. Et l'aurore mesurée s'absente et meurt en moi. Dans les subreaussauts d'un vagissement profane. Des éclairs tout d'un coup dans une plaine. Le vallon s'obscurcit, ma tendance lente se libère portée par les astres. Plaie et secours, entravé près d'un lac sans suite. Une idée d'arbre entouré de bras. Porter ce que je cherche et brasser le vent dont les ramages portent si haut l'autre être. Métallique sursaut, éprise d'un point dans l'espace laissé libre, par le déplacement d'un doigt, désemparé, distant, sans pareil. Une arme discrète, intemporelle. S'élever et glisser en soi comme une caresse, peupler la densité, porte du son. Un souffle éternel pour nous, épouser les ombres, traduire le bois. Je pars, je parcours, un pas, pas plus, considéré, et l'avant de soi qui continue fragmenté, partagé dans le spectre arrangé. Turbine soleil, sort, éclat, des mousses parcourent et s'intensifient.
Thank you.
élancé, la pose, l'oubli, le miroir. Dans un sursaut et la montée des vertiges. Les rondins peuplés, engendrés par la mer, l'irrespirable cloaque et l'histoire des derniers. Je retrouve une fatigue qui ne m'a pas quitté. Et l'aurore mesurée s'absente et meurt en moi. Dans les subreaux d'un vagissement profane. Des éclairs tout d'un coup dans une plaine. Le vallon s'obscurcit, ma tendance lente se libère portée par les astres. Plaie et secours, entravée près d'un lac sans suite. Une idée d'arbre entouré de bras. Porter ce que je cherche et brasser le vent dont les ramages portent si haut l'autre être. Métallique sursaut, éprise d'un point dans l'espace laissé libre par le déplacement d'un doigt. Désemparé, distant, sans pareil. Une arme discrète, intemporelle. S'élever et glisser en soi comme une caresse, peupler la densité, porte du son. Un souffle éternel pour nous, épouser les ombres, traduire le bois. Je pars, je parcours, un pas, pas plus, considéré, et l'avant de soi qui continue fragmenté, partagé dans le spectre arrangé. Turbine soleil, sort, éclat, des mousses parcourent et s'intensifient. Tandis que je parlais, le vaisseau vole, approche de l'île des sirènes. Soudain, le vent tombe, l'air est calme, la mer tranquille. Une divinité berce doucement, charme et endort les flots. Aussitôt, mes compagnons sont debout, on plie les voiles, on les jette au fond du navire. Chacun reprend sa place, l'onde écume sous les rames. Moi, car le péril était pressant, armé d'un fer tranchant, je me hâte de partager en boule une grande masse de cire. Mes doigts nerveux les compriment, amollis au même instant et par mes efforts et par les feux qui nous dardaient heureusement le roi de la lumière. Je vole à mes compagnons, tour à tour, l'oreille de chacun d'entre eux en est enduite. Ils m'attachent au mât du vaisseau. De fortes entraves lient mes mains et mes pieds. Puis, s'étant remis sur les bancs, ils troublent les flots du choc impétueux des rames. Nous n'étions plus éloignés de ce rivage qu'à la distance où porte la voix. Les sirènes, n'ignorant pas l'approche du navire, entonnent un chant harmonieux. Ô fameux Ulysse, la gloire de la Grèce, viens, arrête ici ton vaisseau et prête l'oreille à notre voix. Heureux le nautonnier qui passe devant ses bords. Jamais il n'en partit sans écouter les doux accents qui coulent de nos lèvres. Ces accents l'enchantèrent. Il retourna plus instruit dans sa patrie. Rien n'est ignoré de nous. Nous savons tous les travaux que les Troyens et vous, aux Grecs, avez soutenus par la volonté des dieux dans les champs fameux d'Ilion. Nous savons tout ce qui arrive dans ce vaste univers. Telles sont leurs paroles accompagnées d'un chant céleste. Je désire prolonger mon ravissement. Les signes de mes yeux ordonnent à mes compagnons de me dégager de mes chaînes. Mais tous se précipitent avec plus d'ardeur sur leurs rames. Eurylope et Périmède s'élançant à moi, resserrent et redoublent mes liens. Loin de ces bords dangereux fuit le navire. Par degrés la distance me dérobe le chant des sirènes. Enfin je n'entends plus leurs paroles ni leurs voix. Alors mes compagnons nous rendent à eux. Louis et à moi, la liberté.
Thank you.
exemple, dans la grande épopée, le grand cœur de Gilgamesh est décrit une tubule ténébreuse s'enfonçant dans deux montagnes jumelées. En quête de l'immortalité parmi ses ancêtres et les dieux, et voulant interroger son père défunt sur la mort et la vie, le roi, dont le cœur est rempli d'angoisse par peur de la mort, s'enfonce dans la tubule et marche 9 doubles heures sans sortir de cette nuit profonde. Soudain, un souffle de vent venu du nord frappe son visage et marche encore, arrive à la sortie et voit poindre l'aurore. Il avance encore 12 doubles heures. La clarté, lui, il devient lui-même lumineux, comme le soleil. Il a traversé le long tunnel en 12 longues étapes. Il se dirige alors vers le jardin et voit les arbres couverts de pierreries précieuses. Voilà ce qui se passe dans ces immenses tubules. Et ces microscopiques tubules, c'est la même structure qu'on retrouve à l'intérieur du cervelet. Pont de rien, insufflé des pyramides du néant, à l'intérieur de la pierre. Évanescence, la stabilité de la pierre et l'infortune. Je passe, j'agrandis les orifices sûrement et les souvenirs peut-être. L'obstruction des mots, le vertige qui ramène ces moissons, puis encore la misère. Saveurs éternelles, marigots devenus poudroyants, le champ plat. La lame recroquevillée adossée à la paroi, encore une pierre noire, pas d'édifice, juste l'absence noire et le renversement. Nous écoutons tous ensemble et ployons les genoux qui se fichent en terre. Personne n'y croit, tout craque et recommence à s'assagir. Oui, il ne reste qu'une place vide, comme après une manifestation. Je vois bien la place de la nation et des papiers. Une vague odeur d'horrible merguez, le remuement de la cité, puis plus loin, les temps immémoriaux, puis à nouveau, une aube parisienne avec ses embruns marins. La croissance des arbres, les feuilles jaunies à la même place, la fenêtre éclairée au loin, 1000 vies façonnées par le jour d'une mort. Je m'effrite la clavicule droite de mes ongles, oh, légèrement, juste pour ôter le souvenir d'un insecte, des insectes, et je me replonge dans l'incertitude, la noirceur, puis le blanc, des nuages et des yeux. Je me révulse à l'idée de l'inaccompli et je vibre. Ma mère m'appelle d'un au-delà de toute chose visible, c'est plutôt moi qui la convoque. Je me rassure, m'assieds, les pentes de la rive penchent encore un peu plus qu'avant. Et je ne saurais dire, mais c'est la musique qui attaque les phares de nos esprits réunis en boules mesquines. Un grand bond de l'intérieur et des éparpillements de gouttelettes glacées. Une couronne qui ceint une arène singulière, bien au-dessus de l'état architectural, une forme primordiale que l'on reconnaît.
Thank you.
Pour moi, justement, ce chant des sirènes, c'est peut-être une des manifestations souterraines jusqu'alors de ces mondes urbaines et qui sont peut-être en train de se développer dans l'espace et qui peut-être nous délivrent un message non plus subliminal mais bien réel et bien audible cette fois-ci. Il en va de même de la flûte, qui pour les Chinois est la musique céleste par excellence. Il est à noter qu'il est fréquent en Chine que ce soit le transport béatifique qui se fait par l'intermédiaire des oiseaux. Et comme disait John Peirce, c'est toujours il y eut cette clameur, toujours il y eut cette grandeur, cette chose errante par le monde, cette haute transe par le monde. Et sur toutes les grèves de ce monde, du même souffle préféré, la même vague proférant une seule et longue phrase sans césure, à jamais inintelligible.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. La grande majorité des propos qui ont été tenus dans cette émission sont faux, inventés. Que m'en fous-je ? La collection qui répond n'importe quoi aux questions que vous ne vous posez pas. À la semaine prochaine.